On est là.
La caméra est où? Nous sommes là.
Tu as vu?
On connaît le quartier. Le petit déjeuner. On connaît le quartier, mon ami. Mets-nous le micro.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Delbic.
Bonjour, samedi 22 septembre, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous avec l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons faire de continuels allers-retours entre le monde et l'Afrique spécifiquement. Nous partirons par exemple pour la Corée, l'Éthiopie, la Russie, le Cameroun par exemple. Vous pouvez retrouver et podcaster ce magazine sur le site de la radio www.rfi.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Et cette semaine, nous allons beaucoup parler du continent africain avec nos deux invités, Antoine Glaser et Thomas Hoffnung, qui viennent d'écrire « Nos chers espions en Afrique », un livre publié aux éditions Fayard. Bonjour Antoine Glaser.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique, mais je pense que tous nos auditeurs le savent, parce que ça fait longtemps que grâce à vous, on comprend mieux l'Afrique aussi. Bonjour Thomas Hoffnung.
Bonjour.
Alors vous êtes aussi spécialiste des questions internationales, vous connaissez bien l'Afrique aussi, et vous êtes journaliste, et ça m'a intrigué, sur un site qui s'appelle The Conversation France.
Oui.
De quoi s'agit-il?
Un site qui est fait justement ces trois ans, ces jours-ci. C'est un site d'analyse de l'actualité par les universitaires. C'est-à-dire qu'il est animé par des journalistes dont je fais partie, mais c'est exclusivement réservé aux universitaires qui écrivent en fonction de leur domaine d'expertise sur l'actualité. Et donc c'est comme un journal en ligne. Vous avez toutes les rubriques santé, économie, culture, international, politique.
Quelle bonne idée. Chacun peut lire ce qui est écrit ou c'est réservé à un club?
C'est un site qui est gratuit. Voilà, donc il est en accès libre et d'ailleurs les articles qui sont publiés sur le site voyagent parce qu'ils sont republiables par les autres médias, ils sont libres de droit. La philosophie du site, c'est de diffuser le plus possible l'expertise et le savoir, la vulgarisation intelligente.
Donc il faut aller sur ce site de Conversation France, parce que c'est décliné, j'imagine, en plusieurs langues et dans plusieurs pays.
Ça a été créé d'abord par les Australiens, et puis ensuite ça a été décliné effectivement en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, États-Unis. Il y a un site sur l'Afrique qui est basé en Afrique du Sud, et il y a un site en Espagne maintenant. Donc, vous voyez, on fait la diversité linguistique.
Thomas Hoffnung, donc avec Antoine Glaser, vous nous proposez ce livre, Nos chers espions en Afrique, qui est à la fois un livre politique, un livre d'aventure, où l'on s'aperçoit que même s'ils ont changé, les espions existent toujours. Il n'y a pas que la technologie, les systèmes d'écoute, il y a toujours des espions, Antoine Glaser.
Non seulement les espions existent toujours, et c'est vrai que l'Afrique a longtemps été et reste en partie toujours leur sorte de précaré, compte tenu de toute la période de la guerre froide. On se rappelle bien sûr de chaque Foccard, on disait toujours le réseau des réseaux. C'était vraiment un système pyramidal. Ce qui a vraiment changé maintenant avec les espions d'aujourd'hui, c'est que d'abord, beaucoup se sont privatisés. Ça veut dire, avant, c'était vraiment l'État français, uniquement l'État français. Maintenant, ça s'est vraiment privatisé. Il y a un certain nombre d'anciens des services ou des militaires ou autres qui se mettent au service, bien sûr, d'entreprises françaises ou étrangères, mais également auprès des chefs d'État. Ça veut dire, au fur et à mesure que l'Afrique se mondialise, la France, finalement, perd pied un petit peu sur un continent.
Parce que la concurrence est rude.
La concurrence est rude. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que les services sont vraiment le dernier maillon d'une présence française pour défendre les intérêts stratégiques de la France, non seulement bien sûr dans toute cette zone sahélo-saharienne, la lutte contre le terrorisme, mais également au niveau du business, de savoir qui est qui fait quoi, quels sont les concurrents réellement de la France sur ce continent-là. Sur ce continent, vous le savez comme moi, la France très longtemps s'est crue chez elle en Afrique. Et donc avant, il y avait un système intégré politique, militaire, financier, avec des diplomates et des services secrets, et maintenant on voit que les vrais conseillers d'Emmanuel Macron, ce sont les gens des services.
Alors vous répondez à une question que nous pose Mohamed Ali d'Elvie Plus, qui nous écoute à Pointe-Noire et qui se demande si ces espions français servent encore la France-Afrique. Ça existe encore, ça?
Voilà, la France-Afrique, elle a muté. C'est plus la France-Afrique, Antoine le disait, de Jacques Foccart. Mais les réseaux ne veulent pas mourir, si je puis dire. Ils mutent. Il y a encore des réseaux corses qui sont plus ou moins actifs. Il y a un personnage dont on parle dans le livre, Michel Tomy, qui est dans l'entourage
Il y a quelques Corses, effectivement.
Du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a les réseaux d'affaires, et puis voilà, tous les réseaux traditionnels, les services des GSE, etc., qui sont très actifs encore dans la zone.
Puisqu'il faut aussi préciser, c'est vrai que c'était ce qu'on est passé un peu d'une France-Afrique à une Afrique-France. Ça veut dire, faut pas sous-estimer la capacité des chefs d'État africains, eux, de s'offrir les services des anciens de services secrets, des anciens agents français qui sont dans le privé, parce que finalement, souvent, ce sont des gens qui ont une courte vie, sont très rapidement à la retraite, et très souvent, ils sont au service de chefs d'État. Faut pas s'imaginer africains, et pas simplement, ils vont pas simplement chercher des Israéliens ou des Marocains. Il y a beaucoup d'agents français qui sont au service de chefs d'État africains.
Et à la demande, souvent, c'est ce que vous dites dans le livre, de ces gouvernements africains.
Absolument.
Qui font appel à Paris pour qu'on les aide.
Parce que les réseaux d'influence, quand vous êtes un chef d'État africain, si vous voulez conserver des réseaux d'influence en France, bien évidemment que ça passe par ces agents. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vous permettre de surveiller vos opposants dans le monde entier, et en particulier en France. Donc, je veux dire, ils veulent savoir aussi très souvent qui est avec qui, etc. Ça marche dans les deux sens. On est passé, en fait, d'une France-Afrique de guerre froide de 1960 à 90, à la chute du mur de Berlin. On est passé maintenant dans une Afrique mondialisée à une Afrique à France. Qu'il faut pas sous-estimer ces chefs d'État. Beaucoup de gens, en particulier les opposants, s'imaginent toujours que la France contrôle tout en Afrique, dans les capitales et tout. Mais en fait, les chefs d'État africains ont des ressources, parce qu'ils ont la rente, souvent pétrolière et minière, ils ont des ressources pour s'offrir ce genre de service, c'est le cas de lire.
Ah oui. Alors Antoine Glaser, Thomas Hoff, nous commençons notre voyage et partons d'abord pour Miami, mais pour parler de Nicolas Maduro, le président très contesté, c'est le moins qu'on puisse dire, du Venezuela. Des Vénézuéliens en colère ont protesté en effet mercredi à Miami devant le restaurant du célèbre chef turc qui avait accueilli quelques jours auparavant dans son établissement huppé d'Istanbul pour un repas de luxe le président du Venezuela, dont le pays est plongé, faut-il le rappeler, dans une grave crise économique. Caracas, Julien González.
Ce repas de luxe du président Maduro est resté en travers de la gorge de beaucoup de Vénézuéliens. Tout le monde en parle, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la rue. Furieuse, Isbel, employée payée au salaire minimum, y voit un acte indécent.
Il y a dans ce pays tellement de gens qui meurent de faim, de personnes qui mangent dans les poubelles, d'enfants qui meurent de sous-alimentation. Et lui, il mange dans ce restaurant, il fait comme s'il ne se passait rien ici. C'est le pire des comportements, c'est un manque de conscience de la souffrance des gens. Et le pire, c'est qu'il fait ça et qu'il le refera, il n'en a rien à faire.
Une indignation partagée par Maria, cette mère d'un jeune enfant se dit dégoûtée, elle qui confie se priver de tant de choses à cause des pénuries et de l'hyperinflation.
Si lui peut se permettre ce luxe, nous n'avons même pas la possibilité de donner à manger de la viande à nos enfants. Moi, ça fait 2 semaines que je n'ai pas mangé de viande. J'ai perdu du poids ces derniers mois. Mon fils aussi, comme beaucoup de Vénézuéliens, tous les présidents se font plaisir, mais celui-ci a dépassé les limites. Face à ces vidéos, je pense que nous devons sortir dans la rue pour protester face à cette situation que nous vivons.
Les vidéos ont aussi fait réagir l'opposition. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Julio Borges, a notamment condamné ce repas mangé avec, je cite, « l'argent volé au peuple vénézuélien ».
Autre image dans l'actualité cette semaine et qui va vous plaire, messieurs, plus de 16 millions de dollars en espèces et en bijoux ont été saisis, en effet, dans les bagages d'une délégation accompagnant le fils du président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang Nguema, dans un aéroport brésilien à Rio. François Cardona nous a tout raconté.
Théodorin Obiang Nguema dispose désormais de 3 semaines pour prouver l'origine des biens de luxe découverts dans les valises qu'il transportait. Ils ont été confisqués par la douane lors d'une fouille dans l'un des aéroports de la banlieue de Sao Paulo, la mégalopole brésilienne. Les montres de luxe non déclarées, dont une est couverte de diamants, ont été estimées à 15 millions de dollars. Si le fils du président de Guinée équatoriale ne remet pas les preuves de leur provenance à la justice brésilienne, elles pourraient être vendues aux enchères et l'argent liquide saisi, des dizaines de liasses de billets de 100 dollars, et remis à la banque centrale. La loi brésilienne interdit l'entrée à ces visiteurs détenant plus de 2400 dollars. Malgré les protestations diplomatiques de la Guinée équatoriale, les autorités brésiliennes ne semblent pas vouloir plier face aux pressions. Théodorin Obiang Nguema est un habitué du Brésil où il se rend fréquemment, selon la presse brésilienne qui se passionne pour cette affaire. Elle rappelle ses goûts pour le luxe, son train de vie extravagant. Son dernier anniversaire organisé au Brésil avait fait grand bruit avec la participation de stars de la musique brésilienne.
Vous écoutez RFI, une semaine d'actualité, vous avez raison. Alors il faut absolument que l'on reparle, Thomas Hofnung, de ces deux faits importants dans l'actualité, symptomatiques en tout cas, le Venezuela.
Le Venezuela, oui, c'est...
Ce dîner de luxe alors qu'une population est affamée.
C'est vrai qu'on entend la colère dans le reportage que vous avez diffusé, et on peut la comprendre parce que le Venezuela, c'est une sorte de descente aux enfers qui dure maintenant depuis plusieurs années. On sait qu'il y a une hyperinflation. Je crois que selon les prédictions du FMI, on prévoit le taux d'inflation de 2018. Le PIB va se contracter aussi de près de 20%. Et pourtant, on est en face d'un pays extrêmement riche qui est assis sur des réserves pétrolières. Il pourrait être une grande puissance économique, un pays riche potentiellement, et ça fait d'ailleurs penser à certains pays du continent africain de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est vrai que c'est le comportement de Nicolas Maduro est indécent à ce niveau-là, parce qu'on sait que une partie de la population souffre énormément. Je crois qu'il y a des centaines de milliers de personnes ces derniers mois qui ont fui en Colombie, oui, au Brésil. Donc on entend cette colère, on peut la comprendre, je pense.
Antoine,
oui, enfin juste Thomas a raison, ça veut dire c'est vraiment une question de comportement. Ça veut dire non seulement il y a eu cette vidéo sur le restaurant, mais je trouve quasiment il a aggravé quasiment son cas, si on peut dire, en rentrant dans son pays. Et quand il a été interviewé, il en a rajouté en faisant le geste du cuisinier, là, de son copain, qui est devenu son copain, le restaurateur, et qui fait cette espèce de geste quand il lance le sel sur la viande, et qui dit oui, puis je retournerai là-bas, c'est mon copain, avec le t-shirt et tout. Ça veut dire, c'est du cynisme à ce niveau-là.
Alors, ce qui s'est passé avec Ario, avec le fils du président de la Guinée équatoriale, vous inspire un commentaire? C'est de la provocation, là.
Oui, il est coutumier du fait, Teodoro Obiang. Ce qui est frappant, je trouve, dans cette affaire, c'est que justement, il a un passif à ce niveau-là. Oui. On sait bien en France qu'il y a une procédure judiciaire qui est ouverte contre lui. Il a même été condamné.
Vous connaissez bien le sujet, puisque vous avez écrit sur les biens mal acquis.
Absolument. Et donc, on sait que ce monsieur a été pris plusieurs fois en flagrant délit, j'allais dire. Et d'ailleurs, s'il va au Brésil, c'est que les portes commencent quand même à se fermer. C'est-à-dire qu'il y a une procédure, je crois, qui a été ouverte aux États-Unis, en Afrique du Sud aussi, où il avait ses habitudes, il a connu quelques soucis. Et puis en France, donc, où il a été condamné in absentia, puisque bien sûr, il ne s'est pas rendu à son procès. C'était quand même une première intéressante de voir qu'un pays comme la France, saisi par des organisations humanitaires ou de défense des droits de l'homme ou luttant contre la corruption, se sont saisis de cette affaire et ont condamné Teodoro Obiang. Mais visiblement, il a un sentiment d'impunité, mais il se retrouve quand même là à nouveau pris cette fois au Brésil.
Alors revenons à nos chers espions en Afrique, pour reprendre le titre de votre livre. Il serait intéressant de savoir si le travail de ces espions est toujours un travail d'ordre politique, ou est-ce que l'économie a pris en quelque sorte le dessus.
Ça dépend des zones finalement. Quand vous êtes dans la zone sahélienne, il est clair que la mission qui est confiée aux agents, c'est d'identifier la menace, qui incarne cette menace. C'est tout le travail qui a été fait par les services avant le lancement de l'opération Serval en début 2013, et c'est le travail qu'il continue à faire, c'est-à-dire identifier les têtes qui repoussent. On sait que l'armée française et le G5 Sahel luttent contre eux et coupent en quelque sorte des tentacules de cette pieuvre djihadiste, mais à chaque fois ça repousse, et le travail des services, c'est d'identifier les personnes. Donc là, c'est un travail qui est plus politique, et puis dans d'autres zones, ça va être d'anticiper les menaces sur les intérêts économiques français, peut-être plus là par exemple dans un pays comme le Nigeria.
Alors au cœur de ce système, Antoine Glaser, il y a ce qu'on appelle la DGSE.
Absolument, absolument.
C'est les services extérieurs français.
Et c'est certain d'ailleurs que maintenant tout le monde connaît par la série Le Bureau des légendes, série télé. Et c'est vrai qu'ils veulent un peu redorer leur blason pour montrer que c'est pas simplement que la période des barbouzes est terminée, que maintenant c'est de la haute technologie. Et c'est vrai qu'ils sont les services extérieurs. Ce qui a vraiment changé, c'est que du temps de la guerre froide, ils avaient un rôle politique très important auprès des chefs d'État. On a connu un certain nombre de pays, en particulier en Centrafrique, où le patron de la DGSE, le chef de la DGSE, le chef de poste local, était toujours à côté du chef de l'État, était devenu un proconsul. Ça veut dire, en fait, c'était vraiment toutes ces régions, les 14 anciennes colonies qui étaient tenues d'une main de fer avec un réseau, en particulier des services secrets, et qui faisaient effectivement le travail de surveillance vraiment des opposants, travail aussi de répression. Donc il y a eu quand même une période où c'était, les services secrets avaient pas bonne presse. Maintenant, bien évidemment, on est quand même dans une nouvelle période historique. Ils sont encore très présents. Il y a une très forte concurrence contre eux. Mais en même temps, encore une fois, c'est le dernier maillon. C'est-à-dire, les gens, quand vous avez par exemple des problèmes avec un pays, quand il n'y a plus de relations diplomatiques, ce sont toujours les services secrets qui maintiennent cette relation. On l'a vu en particulier dans des pays comme le Soudan. Mais dans un pays en ce moment où la France s'affaiblit en Afrique, on voit monter en particulier autour d'Emmanuel Macron, du président, les gens qui le renseignent, les gens qui donnent les informations sur l'Afrique, ce sont souvent des gens qui sont passés par la DGSE. Et ça, c'est pas un hasard.
Alors, il y a le renseignement, il y a aussi la protection, Antoine Glaser, Thomas Hoffnung. D'ailleurs, vous nous expliquez très bien dans le livre que, en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a demandé la protection de la France.
Donc, absolument.
Il ne s'agit pas simplement de renseignement. Là.
Exactement. Il y a des pays où vous avez, bien dans tous ces pays, il faut savoir que pendant très longtemps, finalement, c'est la France qui a exercé un certain nombre au niveau régalien, tout ce qui était armée, services secrets, ça, c'était les Français. Et c'est vrai que très souvent, il n'y a pas eu de formation, bien évidemment, dans tous ces pays africains. La France était substituée un peu comme l'assistance technique française, donc l'assistance technique dans les services secrets. Maintenant, un certain nombre de chefs d'État, on l'a vu, on en parle, comme le président Alassane Ouattara, qui, dans un premier temps, avait un peu snobé les services secrets français. Mais quand il s'est pas ce qui se passe dans son armée, qui va aller dans son armée? En plus, il faut des francophones pour savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a des rébellions, des mutineries. Et à ce moment-là, il vient un peu à Canossa, à l'Élysée, en disant, dites donc, président, pourriez pas nous aider? Vous voyez, c'est-à-dire, en fait, on s'aperçoit que souvent, les présidents sont démunis. Savoir dans leur pays ce qui se passe, bien évidemment, ils ont des réseaux on dit toujours l'Afrique de jour, l'Afrique de nuit. Donc, l'Afrique de nuit, là, ils connaissent les ethnies, les machins, les grandes familles et tout. Mais quand il s'agit, comme ça, de savoir la lutte antiterroriste et de savoir les menaces au sein même de leur armée, à ce moment-là, on fait appel à la France.
Thomas Hoffnung.
Oui, ce que disait Antoine, c'est que, en quelque sorte, on peut dire que on revient vers les fondamentaux ou vers ses bases. C'est vrai qu'Alassane Ouattara, justement, certains lui ont reproché d'être dans des réseaux plus internationaux avec son passé au FMI. Mm-hmm. Il s'est ouvert.
Profil anglo-saxon.
Voilà, on disait qu'il était plus proche des Américains, des puissances anglo-saxonnes. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'il veut diversifier. Il a raison de pas vouloir rester absolument toujours en tête-à-tête avec l'ancienne puissance coloniale. Mais, encore une fois, quand il y a un souci majeur, par exemple, en termes de sécurité, eh bien, on va se tourner vers ceux qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire les Français.
Sept jours dans le monde.
Et direction l'Asie maintenant, avec une nouvelle rencontre entre les dirigeants des deux Corées et un accord en plus à Séoul mercredi, Frédéric Ojardias.
Le président sud-coréen a assuré que la Corée du Nord était d'accord pour fermer de façon permanente son site d'essai de missiles de Tongchang-ni en présence d'inspecteurs internationaux. Pyongyang se dit aussi prêt à fermer son principal site de recherche nucléaire de Yeonbyang, mais à condition que les États-Unis prennent de leur côté des mesures correspondantes. Kim Jong-un s'est déclaré disposé à se rendre à Séoul, la capitale sud-coréenne, pour un nouveau sommet, peut-être dès cette année, une visite qui serait sans précédent. Enfin, un accord militaire de réduction des tensions a été signé. Ce sont là des avancées significatives et concrètes qui devraient permettre de continuer la détente entre les deux Corées. Mais Kim Jong-un refuse toujours de fournir l'inventaire de son arsenal nucléaire, comme exigé par Washington, et il n'a pas dit un mot de ses lanceurs mobiles de missiles ou encore de ses capacités d'enrichissement d'uranium. Il n'est donc pas sûr que cet accord trouvé lors de ce sommet à Pyongyang suffira à convaincre les États-Unis.
Ce climat d'optimisme réjouit bien sûr les Coréens qui vivent à Pékin, la capitale du très grand voisin. Écoutez par exemple ce reportage de notre correspondant Stéphane Lagarde.
Un, deux, trois, vive la réunification, crient ces jeunes footballeurs sud-coréens devant le Hokluguan dans le nord de Pékin. Réplique du célèbre restaurant de Pyongyang où les dirigeants sud et nord-coréens ont dégusté à nouveau les célèbres les nouilles froides au sarrasin de Pyongyang vendues au gramme et pour lesquels de nombreux touristes et expatriés sud-coréens à Pékin se précipitent. Des serveuses en habit traditionnel et sur scène, en soirée et paillettes, les étudiantes chanteuses de l'université Kim Il-sung, applaudies par toutes les tables. J'aime beaucoup la chanson On se reverra, ça parle de nous, les Coréens, explique Lee Jeong-beom. À Pékin, on se retrouve tous ici, poursuit ce fonctionnaire âgé de 59 ans. Nord et Sud-Coréen ensemble, on parle la même langue. C'est un jour très important pour nous. Comme les autres restaurants nord-coréens de la capitale chinoise, le Hokkyu-gwan a été contraint de fermer suite aux sanctions de l'ONU. Monsieur Lee a attendu longtemps avant de pouvoir y dîner avec ses amis. Son rêve après la retraite serait de pouvoir y aller en voiture, nous dit-il, depuis la Corée du Sud, pour manger des nouilles froides à Pyongyang.
Nouilles froides à Pyongyang, c'est d'ailleurs un récit de Jean-Luc Coatalem, un grand récit sur la Corée du Nord, que je vous recommande bien sûr.
Avant de reprendre notre conversation, Antoine Glaser, Thomas Hofnung, revenons en Afrique et continuons à nous réjouir avec la détente qui se confirme, cette fois entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui ont conclu un accord en Arabie Saoudite, à Djeddah précisément, Nairobi, Sébastien Demet.
Éthiopie et Érythrée en sont encore au stade du symbole. Pour Matt Bryden, cofondateur du groupe Sahan Research, une signature à Djeddah montre que l'Arabie Saoudite peut se positionner comme garant dans les relations entre les deux pays si l'accord n'est pas respecté. Rachid Abdi de l'International Crisis Group y voit aussi un moyen pour les Arabes d'améliorer leur image, de montrer qu'ils veulent résoudre des conflits et qu'ils ont de l'influence, notamment face à leurs rivaux qataris. Pour autant, le texte contient beaucoup de zones d'ombre. Si Addis Abeba et Asmara s'engagent à respecter les conclusions sur la frontière, la question reste éminemment complexe. Cela implique une démarcation précise, savoir quel village est de quel côté. Il faudra aussi former une commission technique pour résoudre les causes du conflit, se concentrer sur le désengagement des troupes. Tout cela va prendre des années, indique Rachid Abdi. Le texte de Djeddah annonce de futures zones économiques spéciales. On pense là aux ports érythréens sur lesquels l'Éthiopie, pays enclavé, a des vues et qui lui permettrait d'être moins dépendant des infrastructures djiboutiennes. Quant à une reprise des échanges, là encore, beaucoup de questions. Se pose. Il faudra trouver des termes commerciaux, savoir quelle valeur donner au Nakfa, la monnaie érythréenne, et quelles relations interbancaires établir, indique Matt Bryden. Bref, malgré la force des symboles, le plus dur reste à faire entre les deux voisins.
Alors, deux traces sérieuses de paix, une fois n'est pas coutume, il faut y en venir. Thomas Hofnung, d'abord la Corée, ce rapprochement qui se confirme entre les deux Corées.
Oui, cette détente est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on manque souvent de bonnes nouvelles, oui, sur la scène internationale. Mais il faut rester prudent, parce que c'est vrai, le reportage le dit bien, votre correspondant le dit bien. Kim Jong-un, il est assez imprévisible. Il souffle le chaud et le froid. Et là, on a entendu, il demande que les Américains prennent des mesures correspondantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Américains vont devoir fermer un site de recherche sur le nucléaire. Donc en fait, il lâche un petit peu du lest, et puis en même temps, il fait un pas de côté ou en arrière, donc restons prudents, mais c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle, et on voit que le président sud-coréen, lui, est très allant pour aider à cette réconciliation. C'est bien sûr les peuples du Nord et du Sud qui sont les premiers concernés. On a vu que Donald Trump, lui, s'est aussi félicité de cette rencontre, mais
Autre sommet est prévu, en tout cas c'est ce que demande le président nord-coréen.
Oui, qui pourrait se rendre, ouais, lui-même, donc cette fois en Corée du Sud. Donc ça avance, mais on n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements.
Alors, Antoine.
Oui, juste un mot, ce qui est intéressant, ils ont quand même tous les deux, on a l'impression qu'ils font la nique à Trump. Ça veut dire quelque part, on a l'impression que la marge de manœuvre de Trump pour revenir en arrière va être compliquée, parce que quand vous avez deux peuples, deux pays comme ça, qui ont envie de se réconcilier, qui sont plus des frères ennemis, quand le grand frère américain aura beaucoup plus de mal à revenir en arrière.
Éthiopie, Érythrée, autre région du monde où il se passe des choses teinté d'optimisme, en tout cas.
Oui, c'est vrai que ça évolue très vite, hein, depuis qu'il y a un nouveau Premier ministre à Addis Abeba, et on ne pensait pas, d'ailleurs l'Érythrée, souvent, on l'a surnommé la Corée du Nord, oui, de l'Afrique, un pays extrêmement fermé.
Et qu'il demeure encore.
Oui. Qui risque de le demeurer quand même encore un certain temps, mais là aussi, effectivement, cette détente entre ces deux voisins est de bon augure. Maintenant, il faut pareil qu'elle soit confirmée. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que cet accord a été signé en Arabie Saoudite, et on voit que l'Arabie Saoudite, qui est très critiquée pour son rôle dans un pays qui est situé juste en face, de l'autre côté, sur l'autre rivage, de l'autre rive de la mer Rouge, le Yémen, se refait peut-être une forme de virginité en montrant, c'est ce qu'a dit aussi votre correspondant, que elle pouvait aussi jouer le rôle de faiseur de paix.
Alors, avant de continuer notre voyage, Antoine Glaser, revenons à nos chers espions, à vos chers espions. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une concurrence d'évidence aujourd'hui. Cela veut dire qu'il y a d'autres services de renseignement d'autres pays qui se mettent au service, qui peuvent aider d'autres gouvernements africains proche de la France ?
Bien sûr, ça veut dire maintenant que vous avez...
Des Chinois, par exemple,
au hasard. Une Afrique mondialisée, bien sûr, il y a les Chinois, on parle toujours des Chinois, mais vous avez aussi la technologie israélienne, avec des capitaux américains, qui sont extrêmement présents.
On en parlera tout à l'heure à propos du Cameroun, d'ailleurs.
Voilà, évidemment, ils sont très présents au Cameroun, mais c'est vrai qu'on est maintenant dans cette Afrique mondialisée, les chefs d'État, et pas simplement les chefs d'État, les autres puissances, même les partenaires européens de la France, je peux vous dire que ça soit les Allemands, bien sûr les Britanniques et autres, qui sont extrêmement aussi actifs. Pendant très longtemps, chaque ancienne puissance coloniale était restée dans son précaré. Hein, les Anglais, Nigeria, Ghana, la France dans ses anciennes colonies, et bien sûr les Portugais, tout les lusophones entre l'Angola et le Mozambique. Donc ouais. Chacun avait aussi ce réseau d'influence. Et maintenant, avec la Chine est sur l'ensemble du continent. Et pour l'instant, on la voit surtout dans les infrastructures, les matières premières et autres. Elle est en train de monter en politique. Institut Confucius, vous pensez bien que les services secrets sont pas très loin. C'est-à-dire, l'Afrique va devenir un nouvel enjeu multipolaire. Et ça veut dire, Djibouti, c'est Berlin d'une certaine époque. Hein, vous avez Américains, Chinois. Un nid d'espions qui se regarde en chaîne de faïence.
Une semaine d'actualité.
Alors, il pourrait ne pas y avoir d'offensive militaire contre Idlib en Syrie. C'est une autre bonne nouvelle relative, évidemment. C'est ce qui apparaît, en tout cas, après un accord signé entre la Russie et la Turquie à Sotchi, donc en Russie. Accord qui prévoit la création d'une zone tampon entre les forces syriennes et leurs alliés, d'une part, et les rebelles et djihadistes, d'autre part. Correspondance de Daniel Valo.
Concrètement, la création de cette zone tampon rend difficile désormais une offensive de grande ampleur au sol. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l'aviation russe et syrienne ne pourront pas frapper les positions rebelles qui se trouvent hors de la zone lorsqu'elles le souhaiteront. En tout état de cause et à brève échéance, on peut considérer que l'hypothèse d'une offensive de grande ampleur est écartée alors qu'il y a encore une dizaine de jours, la Russie, le régime syrien et l'Iran semblaient déterminés à la lancer. Visiblement, Vladimir Poutine a choisi de ménager son allié turc, de temporiser. Il aura fallu 4 heures de discussion aux deux dirigeants pour parvenir à ce compromis. À Téhéran, il y a 10 jours, les dissensions entre les deux hommes sur la même question avaient pourtant éclaté au grand jour devant les caméras du monde entier. Moscou a donc choisi de ne pas se fâcher avec son allié turc, qu'il considère comme incontournable dans le dossier syrien. Mais la Russie, avec cette zone démilitarisée de 15 à 20 km, fait en sorte également de mettre ses bases militaires à l'abri des attaques de drones qui étaient lancées depuis les positions rebelles.
La Russie, où cette fois la fraude électorale était trop grosse, la ville de Vladivostok et ses environs étaient en ébullition depuis l'annonce dimanche dernier des résultats de l'élection du gouverneur de cette région de l'extrême-orient russe. Des fraudes flagrantes avaient été mises au jour en faveur du candidat soutenu par le Kremlin. Des fraudes tellement grossières que la commission électorale centrale recommande un nouveau scrutin qui pourrait se tenir d'ici 3 mois. L'Afrique à nouveau, Antoine Glaser, Thomas Hofnung et le Cameroun. Ce samedi a commencé la campagne officielle pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Dans cette campagne, les candidats de l'opposition dénoncent un traitement déséquilibré de leurs activités à la radio et télévision publique du pays. Julie Vandal, jeudi.
C'est une note interne de la CRTV datée du 12 septembre 2018 qui a fait déborder le vase. Selon le texte qu'RFI a pu consulter, le directeur de l'audiovisuel public camerounais a affecté 13 équipes de reportage pour suivre les 9 candidats à l'élection présidentielle. Chacun des 8 candidats d'opposition a droit à une équipe, contre 5 pour le président sortant et sa formation de campagne. Jean-Robert Ouafo, porte-parole de Joshua aussi, le candidat du Social Democratic Front.
Habituellement, ils ont le temps de biaiser le temps d'antenne des différents candidats. Mais cette fois, ils ont exagéré. un seul candidat a 5 équipes. Une équipe qui lui est dédiée, une équipe qui est dédiée à sa majorité présidentielle, une équipe qui est dédiée à son directeur de campagne, une équipe qui est dédiée au président du Sénat qui lui est acquis, au président de l'Assemblée nationale qui lui est acquis. On n'a jamais vu ça au Cameroun.
Pour les 5 candidats d'opposition signataires de ce communiqué conjoint de protestation, cette partialité est, je cite, outrancière. Paul Maël, porte-parole d'Akere Mouna, candidat du mouvement Now.
Nous demandons à la CRTV de restaurer l'équilibre au niveau du traitement de l'information, que tout le monde soit logé à la même enseigne, qu'il soit affecté au candidat du RDPC une équipe de reportage avec le même nombre de reporters, comme c'est le cas pour tous les autres candidats. Nous demandons que le temps d'antenne sur la télévision à capitaux publics soit le même pour tout le monde, que les tranches d'antenne qui sont consacrées aux candidats le soient pour tous les candidats au même niveau. Faute de quoi, nous allons non seulement boycotter la CRTV, mais nous allons également recuser les équipes de campagne qu'ils mettront à notre disposition.
Selon une étude d'audience Médiamétrie, la CRTV et la chaîne privée Canal 2 sont les 2 chaînes de télévision les plus regardées du Cameroun.
Une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Glaser et Thomas Hofnung qui vient d'écrire Nos chers espions en Afrique, un livre publié aux éditions Fayard. Il faut dire un mot, plus qu'un mot d'ailleurs, des Israéliens au Cameroun. Vous écrivez dans votre livre « Cameroun, les hommes du Mossad, donc les services secrets israéliens, officiels et officieux sont chez eux depuis le 6 avril 1984, date d'une tentative de coup d'État contre le président Paul Biya. »
Absolument, ça veut dire c'est vraiment une date, c'est important, c'est à partir de cette tentative de coup d'État qui venait du nord du pays. C'est vrai que Paul Biya a toujours pensé que les Français, et en particulier les services, soutenaient les partisans de l'ancien président Amadou Ahidjo et a confié vraiment sa sécurité, sa garde présidentielle. Ça s'est élargi d'année en année. Ça veut dire maintenant l'armée, les gens les mieux équipés, ça s'appelle le BIR. C'est la brigade d'intervention rapide. C'est encadré par des Israéliens. Ce sont les officiers très souvent qui sont obligés d'apprendre l'hébreu. Ça veut dire ils parlent entre eux en hébreu. Si on pouvait toujours essayer de... Ceux qui parlent pas hébreu peuvent pas comprendre quand ils sont là-bas. Et c'est vrai qu'ils sont très particuliers et c'est vraiment la garde prétorienne du chef. Et pour lui, c'est important parce que non seulement comme ça, il reste dans la région, il est soutenu. Et ça se voit même, ça va au-delà simplement de la sécurité, même au niveau de la diplomatie. Si vous regardez les votes, par exemple, contre Israël aux Nations Unies, vous verrez que très souvent, le Cameroun, soit l'ambassadeur, il a autre chose à faire, il sort au moment du vote, soit il s'abstient de voter contre Israël. Ça veut dire, c'est très important pour Israël d'avoir comme ça en Afrique des voix et des gens et des pays qu'ils soutiennent. Et le Cameroun est l'un de ceux qui est le plus dans la zone francophone. C'est vraiment, il y a le Togo maintenant, mais pendant très longtemps, c'était vraiment le Cameroun.
Alors, nos chers espions en Afrique s'appuient sur un réseau, soit des gouvernements, des chefs d'État. Vous parlez beaucoup du Congo-Brazzaville et pour cause de la famille Bongo au Gabon. Et vous parlez aussi des Touaregs, Thomas Hofnung, qui constituent donc une source d'information importante apparemment pour les services secrets français.
Oui, il y a des liens depuis des décennies en fait avec les Touaregs et aux grandes dames d'ailleurs du pouvoir central de Bamako qui accusent la France de jouer un double jeu. Mais effectivement, d'un côté, vous pouvez avoir les diplomates qui officiellement, bien sûr, militent ou en tout cas sont sur la ligne de l'intégrité territoriale du Mali. Il faut aider le Mali à recouvrer tout son territoire. Et puis de l'autre, les services qui vont s'appuyer sur les Touaregs. Pourquoi ? Parce que la zone la plus sensible, on le sait, c'est le Nord. C'est là que les djihadistes s'étaient installés, avaient contrôlé jusqu'en début 2013 toute la moitié Nord. Et il faut s'appuyer. Vous avez besoin d'alliés locaux. D'ailleurs, les Touaregs, ça me fait un peu penser aux Kurdes pour la Syrie ou pour l'Irak, où on va s'appuyer sur les Kurdes localement. Et puis d'ailleurs, on peut pousser l'analogie, c'est que maintenant, les Français sont un peu détachés sous la pression de Bamako, et maintenant que le plus dur est passé, entre guillemets, que la moitié nord a été libérée du péril djihadiste, en tout cas en partie, maintenant on prend ses distances avec les Touaregs. Et à chaque fois, je crois que les Touaregs ont l'espoir que la France va soutenir leur cause, hein, de sinon d'indépendance, au moins d'autonomie. Mais enfin, en tout cas, voilà, il y a toujours ce double jeu et ce besoin de s'appuyer sur des alliés locaux dans le nord du Mali, là en l'occurrence les Touaregs.
Alors il y a des situations, Antoine Glaser, où plus ça change, moins ça change, puisqu'il y a toujours comme source d'information en Afrique, en tout cas dans la partie francophone de l'Afrique, les Corses.
Oui, c'est vrai, mais enfin, ça change quand même dans le sens où, pendant toute une période, les Corses étaient quasiment les ministres de l'intérieur des pays. Donc,
les gouverneurs.
Des gouverneurs avec des conseillers. Non, ce qui est réellement important, c'est que, bien évidemment, renseignement ne marche pas avec la justice. Quand vous êtes les hommes des services ou les Français, quand ils veulent du renseignement, eh bien évidemment, ils s'adressent souvent aux Corses. Pourquoi ? Parce que ils ont souvent les casinos. Ça permet de savoir les gens les plus riches du pays qui sont filmés, etc., etc. Donc, c'est vrai que comme source de renseignement, ils sont leurs entrées dans les palais africains. Donc c'est une bonne source de renseignement. Par contre, c'est vrai que j'ai vu des rapports, en particulier de magistrats français, qui critiquaient et très critiques vis-à-vis de la DGSE en disant pendant des années vous avez soutenu les Corses parce qu'ils vous apportaient du renseignement et c'est pas normal, etc., etc. C'est délictueux. Sauf que en Afrique, la politique c'est la famille et la famille ce sont les Corses en Corse. Donc il y a vraiment des liens étroits entre finalement des familles du pouvoir des nomenclatures africaines et puis des réseaux corses qui leur facilitent la vie.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, je salue quelques auditeurs qui nous ont écrit, par exemple, à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour à Jonas, je salue, écrit-il, la maturité de l'Afrique par le biais de la réconciliation entre l'Érythrée ainsi que l'Éthiopie, on en parlait à l'instant. Enfin, nous voulons, dit-il, que la paix règne totalement en Afrique et singulièrement dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est signé Jonas à Lubumbashi. Bonjour également à Jules, à Lomé, à Anour, à Moussoro, au Tchad, à Cephas, à Côte Tonou et Augustin à Dakar.
Sept jours en Afrique.
Et un retour donc sur le continent africain, au Togo précisément. La commission électorale nationale indépendante est contestée par la coalition de l'opposition, on le sait, mais elle continue à préparer des échéances électorales. On savait que les législatives devraient se tenir le 20 décembre prochain et on apprend maintenant qu'il y aura en plus un référendum. À Lomé mercredi, Peter Sassou, Dogbé.
C'est contre toute attente qu'en plus du processus électoral contesté conduisant aux législatives du 20 décembre, la Commission électorale nationale indépendante annonce par son président le référendum et les élections locales. Professeur Kojona Kadanga.
Nous avons pour le 16 décembre 2018 le référendum et le local et les élections législatives 20 décembre 2018. Bien entendu, avant d'en arriver là, il y a toute une série d'activités qui vont continuer par être menées.
La CENI s'active, un nouveau fichier sera établi à l'issue du recensement électoral prévu à partir du 1er octobre. Cependant, on ne connaît pas le nombre de kits qui serviront à faire le recensement, encore moins le budget qui permet d'organiser toutes ces échéances et qui les finance. C'est une pilule que la coalition de l'opposition ne prendra pas. Brigitte Kafua Diamago Johnson, la coordinatrice de l'opposition, répète, la coalition reste ferme sur ses positions.
Ce processus ne peut pas être mené à son terme. Le moment viendra où ce régime sera ramené à la raison, où ensemble nous pourrons préparer des échéances électorales dans ce pays sur la base d'un chronogramme qui sera accepté par tous.
Techniquement, tout est prêt, dit-on à la CENI, même si la CENI reste incomplète. 4 sièges restent vacants que l'opposition refuse d'occuper parce qu'il lui en faut 8.
Il faut employer le mot avec parcimonie, économie, mais peut-être que ce qui vient de se passer au Liberia est historique, vraiment. En effet, le président George Weah a en effet promulgué une loi sur la propriété de la terre qui remet en question un héritage qui date de la fondation du pays en 1847. Olivier Roger.
Depuis sa naissance en 1847, le Liberia n'a jamais donné la terre aux paysans. Les terres appartiennent à l'État qui peut en céder une partie à des investisseurs privés. Elle appartient aussi à une minorité de propriétaires fonciers venus au 19e siècle des États-Unis. Désormais, les communautés rurales deviennent propriétaires des terres qu'elles recevront de l'État une fois établi un cadastre national. Et cela va tout changer puisque ces communautés, jusqu'alors tenues à l'écart, pourront décider de valoriser ou non ces terres. La loi, à l'élaboration de laquelle la société civile a grandement contribué, prévoit en outre des garde-fous pour empêcher les accaparements par le secteur privé. Ali Kaba est membre de l'Institut for Sustainable Development, une ONG de la société civile.
Premièrement, les communautés villageoises ne pourront pas vendre la terre avant 50 ans. La deuxième chose, c'est qu'avant de pouvoir utiliser ces terres, les communautés villageoises devront mettre en place un comité de gestion, mettre en place un système de cautionnement et elles devront, avant chaque décision, obtenir le consentement de toute la communauté. Bien sûr, elles pourront louer ces terres à des entreprises privées, mais avant de le faire, elles devront passer par plusieurs étapes destinées à informer chaque membre de la communauté sur les tenants et les aboutissants des décisions envisagées.
Le but est donc de réparer l'injustice fondamentale faite aux premiers habitants du Libéria, mais aussi de revitaliser les campagnes en favorisant la création d'exploitations agricoles et donc la création d'emplois.
Et terminons pour cette semaine notre voyage en Centrafrique à l'heure de la rentrée scolaire avec un constat réjouissant. J'ai voulu que cette émission soit réjouissante en quelque sorte. Les filles sont de plus en plus présentes dans les classes. Reportage à Bangui de Charlotte Cossé.
La rentrée a sonné à l'école mixte de Ngaragba. Ici, le constat est sans appel selon le directeur Prosper Guérékoïnza. Il y a plus de filles cette année sur les bancs de ces classes.
L'effectif des filles s'est augmenté par rapport à l'année dernière et on continue même à les recruter. Auparavant, les parents pensaient que l'école c'est pour les garçons, mais cette fois-ci avec les sensibilisations, cela a motivé les parents si bien qu'ils ont inscrit massivement les filles cette année. Oui, il y a un changement radical même, je pourrais dire, de mentalité.
En face de l'école, un couturier attend les clients. Sila, c'est un jeune papa de 23 ans. Il a deux filles de 5 et 7 ans. Elles ont toutes les deux fait leur entrée.
Notre pays a beaucoup souffert. Donc nous voulons que nos enfants aillent à l'école pour avoir demain un bon travail. Donc nos filles doivent aller à l'école pour que demain, ils savent bien s'exprimer et travailler.
Et vous aimeriez que vos filles fassent quoi plus tard?
Pour être même des journalistes, même des enseignants, ce que leur cœur désire à faire.
Partout en ville, de grandes affiches de sensibilisation de l'UNICEF montrent des petites filles qui vont à l'école. Elles préfèrent porter des cahiers plutôt que des légumes, disent-elles sur ces visuels.
Voilà un reportage qui fait du bien. Vous voyez, il faut être journaliste pour réussir dans la vie. C'est ce que dit ce monsieur. Un mot sur cette révolution peut-être qui s'annonce au Libéria, Thomas Hoffnung, avec cette notion de propriété des terres qui passerait de l'État à la propriété privée.
Oui, c'est ce que dit le reportage, ce que dit Olivier Roger. C'est vrai que c'est une véritable révolution qui s'amorce au Libéria. On sait que la propriété foncière, c'est toujours, j'allais presque dire, le nerf de la guerre, souvent dans les conflits sur le continent africain. Une réforme foncière, c'est toujours fondamental. Et là encore, Georges Weah, je pense, surprend un peu son monde. C'est vrai, l'ancien footballeur.
Le nouveau président footballeur.
Le nouveau président du Libéria, qui a succédé à une femme, Ellen Johnson Sirleaf. Donc, il prend des risques, mais... parce que encore une fois, c'est une question extrêmement sensible, mais il fait évoluer les choses, et là, effectivement, on est dans le registre des bonnes nouvelles.
Alors, les moins bonnes nouvelles, c'est le moins qu'on puisse dire, parlons du Mali et parlons de nos amis Ghislaine Dupont et Claude Verlon, disparus dans les conditions que l'on sait. Vous y consacrez quelques pages, vous leur consacrez quelques pages dans votre livre, avec cette notion de renseignement, de secret défense, de documents confidentiels, les documents déclassifiés dans le cadre de cette enquête n'apprennent rien.
Enfin, ils apprennent, je veux dire, le Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été tués le 2 novembre 2013. Ça va faire 5 ans maintenant.
Bientôt, ouais.
Ce qui est vrai, c'est que ça apprend maintenant. On sait qui a tué, à peu près, les exécuteurs. Par contre, on connaît pas les commanditaires. On connaît pas, je veux dire, les docs, les déclassifiés sont largement, on peut pas dire caviardés, mais en fait, il y a des choses qui sont, évidemment, pour des questions de sécurité, mais surtout, quand François Hollande avait reçu, c'était le 24 juillet 2015, Marie Solange, la mère de Ghislaine Dupont, les yeux dans les yeux, il a dit carrément, vous saurez tout, heure par heure, minute par minute.
Mais on voit que même le président de la République, faut pas se leurrer, le président de la République peut rien faire contre des documents des services secrets français à un certain niveau. C'est impossible. Alors là, on sait pas, on connaît pas les commanditaires, on sait pas exactement s'ils ont été tués pour une vengeance, pour une libération. C'est pas des gens qui ont pas eu une partie de la rançon des anciens de otages d'Arlit, etc. Donc encore une fois, on s'aperçoit quand vous prenez les grands dossiers classé confidentiel défense, ben vous voyez, il y en a très peu. Alors là, peut-être qu'avec Naudin, peut-être que finalement Emmanuel Macron qui vient de faire un geste par rapport à l'Algérie, mais l'Algérie, c'est, il parlait de 1957. Donc quand c'est 50 ans après, il y a des possibilités sans doute, mais quelque chose de récent comme ça, c'est, reste très difficile.
Et vous avez une phrase terrible dans votre livre, Thomas Hoffnung, Antoine Glaser, c'est celle-ci, le renseignement ne fait pas bon ménage avec la justice.
Oui, mais c'est vrai que c'est ce que vient de dire Antoine, il y a un télescopage entre la raison d'État et la justice. On l'a vu, ça nous ramène à l'affaire des biens mal acquis, où le pouvoir politique français a essayé de freiner un petit peu ces procédures, parce que ça met en cause après des relations d'État à État, et on se retrouve ensuite avec des crimes terribles comme celui, comme l'assassinat de nos deux confrères et consoeurs dans le nord du Mali, et on essaye, on voit qu'on ne veut pas sortir tous les documents parce que peut-être que ça met en cause c'est des ramifications dont on ne veut pas, qu'on préfère passer sous silence.
Ah, il faut rappeler que la justice est saisie et que les juges essaient de faire leur travail dans de bonnes conditions. Alors, il faut que nous parlions, Thomas Hoffnung, de l'organisation de ces services de renseignement français, parce qu'on a parlé de ces services en action en Afrique. Mais comment sont-ils organisés en France ? En lisant votre livre, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain désordre, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'il y a le renseignement militaire, il y a la DGSE, les services de renseignement extérieur, il y a le Quai d'Orsay, vous dites aussi qu'il y a des diplomates qui sont passés par la DGSE, qui fait quoi ?
Oui, alors, normalement, en théorie, sur le papier, les choses sont claires. La DGSE a le monopole du renseignement à l'extérieur des frontières du territoire français. La DGSI, anciennement DST, s'occupe du renseignement intérieur du contre-terrorisme. Et puis, il y a un nouveau venu, enfin maintenant, ça date depuis le début des années 90, c'est la DRM, le renseignement militaire. Mmh. Qui fait du renseignement pour la sécurité de ses propres troupes. Mais en fait, on se rend bien compte qu'il y a des empiètements et je crois d'ailleurs que c'est
et des rivalités aussi.
Et des rivalités, c'est pas, il faut le dire ici, que c'est pas propre à la France. On sait que par exemple le FBI ou la CIA parfois se retrouvent aussi à se chevaucher, un peu à se marcher dessus. Mais on voit en Afrique, par exemple, le renseignement militaire, la DRM, essaye d'avancer ses pions, notamment en disant quand en amont d'un conflit. C'est la DGSE qui fait du renseignement clandestin. Et par contre, quand le conflit est ouvert, c'est la DRM, le renseignement militaire, qui doit prendre la main. Bien sûr, la DGSE n'entend pas de cette oreille, donc ça crée des tensions, des rivalités. Et puis, ça peut même entraîner des doublons. Par exemple, si le renseignement militaire essaie de recruter des sources qui sont déjà des sources de la DGSE, voilà, peut-être que la personne qui fait l'objet de toutes ces attentions, elle peut jouer sur les deux tableaux.
Et l'on sait, votre livre le confirme, que les services de renseignement sont jaloux de leurs sources de renseignement, précisément. Antoine Glaser.
Oui, et puis il faut dire aussi, là, en dehors, bien sûr, des bisbilles qu'il peut y avoir entre les services officiels, il y a comme faute de moyens, maintenant, les services font de plus en plus appel à des sociétés privées, et vous avez des anciens des services, donc parfois, les conflits d'intérêts, ça devient encore plus compliqué sur le terrain.
Sociétés privées créées souvent par des ex-agents.
Ces agents qui gardent un lien avec leurs frères d'armes, donc ça devient assez compliqué dans les pays comme la Libye particulièrement, où là, on voit bien qu'il y a un mélange des gens entre officiels et services privés.
Merci Antoine Glaser, merci Thomas Hoffnung. Il faut lire votre livre qui s'intitule Nos chers espions en Afrique, avec une belle couverture plutôt drôle, publié chez Fayard. Merci.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Notre invité sera le géographe Yves Lacoste qui vient de publier ses mémoires. On parlera beaucoup de géopolitique. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.